Continuons notre petite valse de personnage en personnage de cette émission Personne n'est parfait. Le lien entre Catherine Breillat et ce qui suit, eh bien c'est justement Luc Moulet qui le fait dans le numéro des Cahiers du cinéma de janvier 2001, puisqu'il écrit « La Garonne et non la Seine contient la sève principale d'un art cinématographique français. C'est en cela qu'Alain Guiraudy se situe à l'avant-garde du cinéma aquitain, qui se révèle de plus en plus nettement comme notre cinéma moteur après Jean Eustache, Catherine Breillat, André Téchiné, Pascal Canet et Jacques Nolot. Alain Guiraudy, qui est donc cet Alain Guiraudy dont parle Luc Moulet, c'est un jeune cinéaste qui est né à son cinquième moyen métrage. Du Soleil pour les Gueux est l'avant-dernier, le prochain sera présenté à Pantin. Du Soleil pour les Gueux sort aujourd'hui. Et Luc Moulet lui a écrit, on pourrait dire, un éloge vibrant donc dans le dernier cahier du cinéma, où il écrit encore, Luc Moulet, le grand homme, l'originalité la plus indiscutable du travail de Guiraudy réside dans la façon dont il saute sans cesse d'un plan au suivant, et même dans l'intérieur du plan. Voici une œuvre qui ne ressemble à rien de ce qui se fait dans le cinéma français actuel. Nous avons vu, nous, Du Soleil sur les Gueux, c'est vrai que cela nous avait impressionné. L'admiration de Luc Moulet nous a aussi beaucoup plu, et nous avons organisé une rencontre entre donc ce que je disais, cet inconnu inconnu qui est Alain Guiraudy, et cet inconnu célèbre, qui est Luc Moulet. Luc Moulet qui a fait plus de 30 films, tout format confondu, écrivain de cinéma bien sûr, comme ce très beau livre sur les acteurs, la politique des acteurs, et qui est en train encore une fois là, de préparer un prochain film. Et Luc Moulet a accepté de nous recevoir, Alain Guiraudy, réalisateur de Du Soleil pour les Gueux, et moi-même, chez lui, autour de sa grande table de bois. Luc Moulet, nous sommes chez vous, à Paris, dans le 11e arrondissement. Vous avez bien voulu nous recevoir. Et quand je dis nous recevoir, c'est pas tant, au fond, l'émission, Personne n'est parfait, ou moi-même, mais c'est vous avez bien voulu accepter de recevoir avec chez vous Alain Guiraudy, qui est un... on va dire un jeune cinéaste qui a né maintenant à son combien cinquième film. Pourquoi ? Parce que voilà, ce qui nous a intéressé, ce qui nous a troublé, c'est que vous avez récemment écrit dans le catalogue d'anniversaire du Café des Images à Hérouville-Saint-Clair et aussi dans les Cahiers du cinéma, un vibrant éloge d'un film que très peu de gens ont vu pour l'instant, film qui s'appelle « Du soleil pour les gueux » et réalisé par Alain Guiraudy. Alors, d'abord, comment vous avez-vous découvert ce film ? Est-ce que c'était la première fois que vous voyez un film d'Alain Guiraudy ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Et puis, dernier petit ajout à cette longue question, vous l'avez écrit de quel point de vue ? Du point de vue de l'écrivain de cinéma que vous êtes, on connaît tout ce que vous avez écrit, de nombreux textes, et notamment au Cahier du cinéma, et aussi dans Trafic. Et bon. Ou est-ce que c'est du point de vue du cinéaste, plus spécifiquement Luc Moulet ?
Ben, je dois avouer que j'étais un peu en retard par rapport à Guiraudy, parce que je n'ai vu un film de lui que l'année dernière, alors qu'il travaille depuis 10 ans à peu près. C'était dans le cadre du Festival de Pantin, pour chercher des acteurs et aussi pour me mettre un peu au courant de ce qui se passe. Je vois systématiquement tous les films de court-métrage qui sont en compétition officielle au Festival de Pantin chaque année. Donc il y avait le film de Guiraudy qui était sans couder au-dessus des autres. Et c'est à partir de ça que ça s'est passé. Je me suis dit, bon, ben, le film en même temps était un peu contesté. Et j'ai pensé qu'il était opportun de dire ce que je ressentais à partir d'un film pour lequel j'éprouvais une certaine admiration.
Alors c'était donc Du soleil pour les gueux. Alors, qu'est-ce qui vous a à ce point plu, que vous pouvez d'ailleurs dire devant lui, hein, il vous écoute sagement, Alain Guiraudy. Qu'est-ce qui vous a à ce point plu alors, qu'est-ce qu'on peut en dire pour donner l'idée de ce film et puis donner aussi envie aux auditeurs d'aller le voir ?
Disons que c'est toujours plaisant. On arrive devant un écran, on ne sait pas du tout ce qu'on va voir. Et puis on s'aperçoit au bout de quelques minutes que ça marche, il y a quelque chose qui passe. On se dit, bah, c'est quelqu'un de la famille, quelqu'un qui vous est proche. Ça peut arriver avec un cinéaste japonais ou hongrois, ou un cinéaste français. Et puis ça se confirme au bout de 5-10 minutes. C'est un film qui tient le coup. Et dire ce qui m'intéressait dans le film de Guiraudy, Brouille, je le recevais, c'était une réception brute, puisqu'il y a une part de jouissance du spectateur, comme probablement du réalisateur, qu'on ressent. Alors, effectivement, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a l'utilisation du décor naturel qui est rare, puisqu'il s'agit du Causse, qu'on voit pratiquement pas dans le cinéma français.
Le cause du Larzac.
Oui, le Larzac, en fait, mais ça aurait pu être un autre Causse au niveau du feu. Hein. Et puis, alors, la valeur qu'a ce lieu par rapport aux autres lieux qui sont simplement entrevus, enfin, c'est une sorte de microcosme. C'est à la fois aussi, surtout, un monde très ouvert, hein, puisque c'est très large. C'est le lieu où on voit le plus loin en France, le Causse. Dans la région, par exemple, du Mont-Lozère, on arrive à voir à 40 ou 50 kilomètres. Et puis en même temps, très fermé, parce que les gens tournent en rond. Et même quand ils avancent, quand ils se déplacent, on a toujours l'impression d'être au même endroit. Ce qui introduit un certain sens, parce que dans la vie, peut-être qu'en avançant, on fait du surplace. Donc, il y a presque une métaphysique qui
Oui.
surgit de la description du lieu.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui courent tout le temps, façon western, sauf qu'il n'y a pas de cheval, ils sont à pied, ils se poursuivent. Il y a une jeune fille qui a un nom façon western, Nathalie Sanchez, mais elle a pas de Winchester à la main. Et c'est vrai que tous ces gens qui se courent après et qui recherchent aussi les zounaïs, on y reviendra sur ce que sont ces zounaïs, au fond, on ne verra ni jamais les zounaïs, on ne verra jamais réellement comment ils se déplacent et quelle est la topographie même du lieu, puisqu'ils courent tout le temps, effectivement, comme vous dites, mais sur un lieu qui n'a plus trop de repères, donc ça pourrait être sur place. Et puis on va passer la parole à Alain Guiraudy, est-ce que tout de même ce qui vous a plu dans ce film, Luc Moulet, c'est comme un écho à un film que vous avez fait il y a 30 ans sur ce mode un peu du western, qui est un film très difficile à voir, qui s'appelle Une aventure de Billy le Kid, et qui a été en revanche tourné dans les Alpes de Haute-Provence.
Oui, mais enfin, c'est qu'un tout petit détail par rapport au film de Guiraudy, parce que je faisais un western, donc j'avais étudié un peu l'histoire des Indiens, et j'avais noté un principe qui n'est pas reproduit dans le western américain, c'est la poursuite à l'indienne. Quand on veut poursuivre un ennemi, au lieu de courir après et de le détruire, de le tuer, de le capturer dans des conditions difficiles, on le traque en arrivant à quelques mètres de lui pendant des jours et des jours, et la personne poursuivie en a tellement marre qu'elle se rend en levant les bras. Donc j'avais un peu esquissé ça dans Billy le Kid, enfin d'une manière un peu rapide. Je ne sais pas si on saisit bien le principe, parce que effectivement, les tournages étaient difficiles et on est allé au plus simple. Et ça se lit moins bien. Tandis que Guiraudy a exposé la chose de façon très, très, très lisible. Et d'ailleurs, je crois, sans le faire exprès, puisqu'il n'était pas au courant du principe de la poursuite à l'indienne.
Mais enfin, il a mieux réussi que vous, quoi.
Il a mieux réussi que moi, et même il est allé plus loin. Puisque il a dépassé la chose, finalement, c'est le chasseur qui renonce là. Parce que le poursuivi fait exprès de se laisser rejoindre.
Et de ne pas s'enfuir véritablement, oui.
Oui, et alors il sait qu'il y aura toujours la distance. Donc je faisais la référence à Achille et la tortue.
Quand vous avez vu Du soleil pour les gueux, vous vous êtes dit très vite, je dois écrire un texte, ou vous vous êtes dit en premier, j'aimerais bien rencontrer ce gars, Guiraudy.
Moi, je ne me suis pas posé de questions ni l'une ni l'autre, parce que le film compte plus que le réalisateur, en principe. Bon, j'avais d'autres choses à faire. Et puis, C'est par hasard parce que on m'a demandé au Cahier du cinéma d'écrire un article sur n'importe quoi. Puis je me suis dit, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est d'écrire
Le
sur
film.
Guiraudy.
Alors, Alain Guiraudy, sur le résumé du film, bah, disons que bon, on est sur le climat, On est
effectivement,
quand même un peu flou
on est quand même
encore,
dans
hein.
le climat, mais on est
Oui.
bien dans le. Non, le climat est bien planté. C'est vrai que le Larzac, c'est effectivement à la fois, enfin, dans le film, c'est à la fois quelque chose de très grand. C'est aussi une prison, quoi, hein, donc, dans laquelle des gens tournent, tout ça tourne beaucoup en rond, quoi. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, oui, effectivement, il y a pas mal de choses à rajouter, quoi. Je sais que de toute façon. Ouais, ça parle quand même beaucoup du fantasme et de ces choses-là, d'une jeune fille qui veut rencontrer des bergers mythiques. Là, quand même, on va un peu essayer un peu de recentrer
Une
le
jeune fille
sujet.
arrive en petite robe, petit chapeau, très jolie
Voilà.
jeune fille qui, comme ça, un peu naïvement, demande son chemin et demande à chercher des...
Elle cherche des bergers d'Ounaï, quoi. Donc,
Des bergers quoi?
des bergers d'Ounaï.
Ah oui.
Donc, c'est assez une confrontation entre notre monde à nous, les pauvres de notre monde à nous, quoi. En l'occurrence, une coiffeuse au chômage.
De
Et
Millau?
de Millau, oui. Et une espèce de monde irréel, mais qui pourrait très bien s'apparenter au tiers-monde. Enfin, je pense notamment à des endroits comme le Certa ou au Brésil ou autre. Enfin, et je pense que ce genre de configuration existe au Brésil, par exemple, où on peut avoir effectivement un premier monde et un tiers-monde qui sont vraiment juxtaposés, quoi.
Dites-moi, je cherche des bergers d'Ounaï. Vous n'en auriez pas vu par hasard?
Par hasard, j'en vois tous les jours.
Et sauriez-vous me dire où je pourrais les trouver?
Marchez droit devant vous. À quelques kilomètres de là, il y a un village de bergers. Vous ne pouvez pas vous tromper.
Droit devant moi, c'est vite dit.
Vous savez marcher droit, au moins.
Mais au milieu de cette immensité, comment garder le cap?
Mademoiselle voudrait peut-être que je lui trace un chemin avec des pancartes.
Mais il n'y a pas une route.
Ici comme ailleurs, les routes ne mènent qu'à d'autres routes.
Jamais à des villages.
Et dites-vous bien que pour rencontrer les bergers d'Ounaï, il faut sortir des grands axes.
Parce que vous appelez ça un grand axe ou...
J'appelle ça une route qui ne conduit pas chez les bergers. Alors marchez droit devant vous. Ce n'est pas compliqué tout de même.
Donc, enfin, l'idée, au travers de ce film, c'était vachement de mélanger ces choses-là, de mélanger tout ce qui est... Tout ce qui est ailleurs, la fable, le conte, y compris le genre, donc le western. Bon, sauf que c'est vrai qu'à la différence de Billy the Kid, qui est effectivement de Luc Moulet, donc qui est effectivement un vrai western, enfin, c'est vrai que c'est un western, c'est-à-dire dans le sens où il y a des Indiens,
Où le référent est explicite,
voilà, il y
quoi.
a des Indiens, il y a un cow-boy, il est traqué, enfin, il y a un bandit qui est traqué par des mecs avec des fusils, tout ça. Il y a même des chevaux, non? Non, Billy the Kid. Dans Billy le Kid, il y a un cheval.
Ah, voilà, mais enfin, il y a au moins le cheval. Il y a au moins le cheval qui est de mise, quoi. Tandis que, effectivement, avec des. Voilà, c'est vrai que c'est documenté. Pour en revenir à la poursuite à l'indienne, effectivement, c'est Luc Moulet qui m'a appris le principe de la poursuite à l'indienne. Je ne savais pas du tout que c'était un truc. Et moi, je trouve que dans Billy the Kid, c'est justement vachement. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vachement bien, quoi. Parce que carrément, on a l'indienne derrière Léo, enfin, Jean-Pierre Léo.
qui oui, oui, derrière Jean-Pierre Léo, qui joue donc ce fameux. Billy the Kid, l'Indien reste 30 mètres derrière lui et fait exactement la même chose. Il avance, il recule, il s'assoit, il s'assoit. C'est donc, en fait, ça, effectivement, j'ai découvert ça après avoir. Donc, moi, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui c'est vraiment du pur hasard et bon. Donc, oui, effectivement, du soleil pour les gueux, c'est sûr qu'après, je ne suis pas dans les canons du western. J'ai quand même un peu de mal, hormis le paysage, à rapprocher ça d'un vrai western.
Au Carolisba, qu'as-tu à courir de la sorte?
Chaouch Maline m'a envoyé Puloxano Sasdai.
Et alors?
Tu ne vas pas me dire que tu ne connais pas Puloxano Sasdai, le plus grand guerrier de poursuite en ce bas monde.
ça devait bien arriver un jour ou l'autre.
Il ne me reste plus qu'à m'enfuir. Je pars pour Montpellier.
À pied ?
Mademoiselle aurait peut-être un cheval à me prêter.
Mais c'est drôlement loin.
Sachez que je peux courir des jours et des jours sans m'arrêter.
C'est impossible.
Tant que j'ai de l'Ibanja dans ma gourde, bien sûr.
Tu finiras fou, Carolisba.
C'est ce qu'on dit. Mais regarde-moi bien, Gemma Gaudalon. J'en bois 2 gadins par jour. Ai-je l'air fou ?
Il y a tout de même quelque chose dont vous ne parlez pas tous les deux, ni vous Luc Moulet, ni vous Alain Guiraudy, qui êtes l'auteur de ce film sur les Pourlegueux, c'est cette langue inventée à laquelle on ne comprend quand même pas grand-chose à la première vision. Moi je suis comme vous, j'ai vu le film 3 fois et presque 4 en fait en repréparant un peu cette rencontre. On ne la comprend, cette langue, qu'effectivement au bout de la vraiment deuxième ou troisième vision, enfin quand on en décèle davantage le sens de certains mots inventés. Ça fait partie, entre autres, de ce qui vous a plu aussi, Luc Moulet, dans le film d'Alain Guiraudy.
Oui, enfin, la langue au sens premier, c'est-à-dire ce qui est parlé. Mmh. Oui. Bon, ce qu'il y a de difficile, c'est seulement les noms des personnes qui sortent des noms impossibles.
Vous sauriez les redire, là
Oui, Pouloxano Sasdai.
Ouais. Oui. Ensuite
Vous me prenez de vitesse, mais j'aime beaucoup ça parce que je suis un fan des noms basques. Locho Gorigagna, vous connaissez. Et j'avais une firme qui s'appelait Orgambidecha 612. Il y en a d'autres. Le principe, c'est de les dire très vite quand il y a des noms difficiles. Oui, alors ce que j'aimais beaucoup, c'est donc, c'était qu'il y avait comme ça un ton tout à fait différent qui rappelait à la fois Beckett et aussi Lewis Carroll, puisque c'est Nathalie Sanchez, c'est une nouvelle Alice. Et je crois la force du film, c'est d'avoir décrit une situation complètement loufoque et irréaliste avec des éléments qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire une façon de parler tout à fait spontanée, naturelle, qui revalorise cet univers totalement irréel. Et l'alliance de l'irréel et de la spontanéité. Grâce notamment au jeu d'Isabelle Girardet, pour lequel j'ai une grande admiration. Et aussi, il a rajouté des nouvelles structures par-dessus, parce que non seulement il y a la spontanéité, mais en même temps, il y a des fois des phrases qui sont un petit peu chiadées,
oui,
comme
très
ça.
Écrites, hein, très presque classiques, hein, qui ont une espèce de tonalité très presque théâtrale. Hein.
Elle est à la fois très spontanée, moderne, et puis elle a des phrases un peu 1900 ou 1920. Donc on est sans cesse surpris par l'évolution à l'intérieur du film.
Je vous aime tellement que j'aimerais rester avec vous tout le temps, mais rester avec vous pour quoi faire ? C'est ce qui m'ennuie dans la vie. À part passer le temps de la façon la plus agréable, on ne peut rien attendre de mieux.
Rien de mieux, comme tu y vas. Ce serait déjà pas si mal.
Mais moi, je suis pas là pour passer le temps.
Ah bon ? Alors tu es là pour quoi ?
Mais le temps, je le passe, je suis bien obligée, je ne peux pas faire autrement. Mais avouez que si on nous a mis là juste pour décorer, juste histoire de dire sur la terre, il y a des chiens et des hommes et même des vipères qui sont là pour passer le temps. Alors avouez que ce serait vraiment débile.
Et les enfants ? As-tu pensé en avoir ?
Si en plus je devais servir à repeupler le monde pour que les hommes continuent à passer le temps, alors là, ça me désespérerait trop.
C'est quand même une grande chance que de pouvoir donner la vie.
Il n'y a que les hommes pour penser de telles choses.
Oui, non, même sur le côté, je ne suis pas là pour passer le temps, je pense quand même que c'est une des bases. On a vachement envie de donner du sens à la vie. Bon, et ça, on n'a pas fini de l'entendre.
Alors justement, puisque Alain Guiraudy nous entraîne sur ce terrain, est-ce que là aussi, c'est dans ce que fait Alain Guiraudy
quelque chose qui vous plaît bien, Luc Moulet, c'est-à-dire que, bah oui, qu'on sorte de Paris. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse ? C'est, en plus, cette notion d'accent, on n'entend pas beaucoup d'accent dans le cinéma français, ce qui fait la diversité, effectivement, des régions. Et que justement, aussi, du coup, économiquement, Guy Roddy, comme quelques autres, essaie de bâtir un système de production de films et de cinéma qui ne doivent rien ou peu à l'influence de la capitale.
Oui, bien sûr. De toute façon, je ne crois pas tellement à une civilisation française. Je crois plus à une civilisation des régions qui ont une véritable identité. Parce que vous voyez, la mentalité d'un Français depuis Caen jusqu'à Perpignan, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ou encore depuis Metz jusqu'à Marseille, c'est pas du tout la même chose. Et vous voyez ça à travers le cinéma de Straub et le cinéma de Pagnol, par exemple. Je crois beaucoup au régionalisme lié à la création. D'ailleurs, les écrivains que j'aime le plus sont tous des écrivains régionalistes comme Faulkner, Hardy, que je désire adapter, ou Giono. Et puis, au cinéma aussi, effectivement, moi je me considère d'ailleurs comme un cinéaste régionaliste, axé sur les Alpes du Sud, parce que c'est quelque chose que je connais bien.
Vous êtes né où ? Vous êtes d'où, Luc Moulet ?
Je m'en veux un peu, je suis né à Paris.
Ah voilà, vous voyez.
Mais effectivement, ma région de prédilection, c'est les Alpes du Sud, d'où est originaire la famille de mon père.
Mais enfin, vous êtes né à Paris, ce qui veut dire qu'on n'est donc plus à une contradiction près non plus avec vous, ni un paradoxe, mais vous êtes donc un vrai Parisien, c'est-à-dire que vous rêvez de partir de Paris, et les faux Parisiens, eux, qui sont là, sont des gens de province qui rêvaient, pour ceux qui y sont, de venir à Paris.
Oui, d'ailleurs,
j'ai un retour bien connu.
J'ai des problèmes de santé du fait que je reste souvent à Paris. Là, je suis allé voir le docteur, ça m'arrive très rarement, mais j'envisage d'émigrer.
Et vous, alors, Alain Guy Roddy, vous n'êtes pas né très loin du COS que filme Luc Moulet dans Amphi, capitale de la France.
Voilà, ouais, ouais, je suis né à deux pas du COS Comtal, quoi. Ouais, je suis un Aveyronnais pure souche, voilà. Et donc, non, maintenant je vis à Gaillac, quoi, je me suis exilé dans le Tarn. Voilà, ça a été mon exil à moi. Non, je voulais en revenir. Non, par rapport aux notions de régionalisme, là, vous disiez, Marc, tout à l'heure, que j'essayais de faire un cinéma qui ne doive rien à Paris. Enfin, c'était un peu le...
Sans que ce soit forcément, d'ailleurs, comme dit Moulet, en fait, du cinéma régionaliste non plus. En l'occurrence.
Ouais. Disons que je prends vraiment la notion de régionalisme avec des pincettes, quoi. Enfin, bon, faut dire que chez nous, le régionalisme aussi se fixe beaucoup sur un anti-parisianisme assez primaire. Donc, c'est vrai que j'essaie toujours de faire très attention à ça, quoi. C'est vrai qu'après, la France est ainsi faite que, effectivement, c'est très très dur de faire du cinéma, de faire beaucoup de choses d'ailleurs, hors Paris, quoi. C'est vrai qu'à Paris, en plus, il y a l'émulation et il y a le dynamisme qui convient. Moi, après, ce qui m'importe, effectivement, ça, par contre, j'y tiens, je tiens à continuer à vivre là-bas. Et parce que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est quand même tout à fait faisable de vivre là-bas et de faire des choses à Paris, quoi. Ça suppose d'avoir une bonne voiture ou d'accepter de faire pas mal de trajets, quoi, mais
c'est vrai quand même qu'il y a des avions et des trains aussi.
Voilà, on a quand même. Ouais, mais j'aime bien la voiture. Hein. Et après, moi, c'est vrai que ce qui m'importe, et ça, je trouve, ça, c'est une notion qui m'est très chère. Je pense que c'est vrai qu'il faut faire, il faut faire les choses là où on a envie de les faire. Ça, c'est certain que, de ce côté-là, c'est vrai que j'ai mon petit périmètre là-bas, auquel je me sens sur mes bases, on va dire. Et c'est vrai que je me vois mal en sortir, effectivement, quoi.
Mais alors, dans votre cas, Alain Guy Roddy, est-ce que même, donc, une petite économie du cinéma peut être un principe délibéré de dire, moi, j'ai pas besoin forcément d'avoir tant d'argent et je ferai mon film coûte que coûte, c'est le cas de le dire.
Ben, moi, ce qui me plaît, en fait, dans le cinéma, c'est qu'en plus, c'est une industrie, quoi. Ça, j'ai commencé à réfléchir un peu, là, depuis quelques temps, là-dessus. Enfin, ça me plaît, moi, qu'il y ait ces contraintes-là, quoi, humaines et économiques. Donc, je pense que ça façonne bien son art, cette façon de faire. Après, du soleil pour les gueux, c'est évident que si j'avais eu plein, enfin, j'ai eu vachement plus d'argent, ça serait pas ce film. Je crois que j'aurais même pas fait du soleil pour les gueux, quoi. Donc, peut-être qu'à un moment, c'est bien que je m'y sois barré gaiement, avec peu d'argent, et puis que j'ai laissé tout ce, que, de toute façon, ça m'intéressait pas vraiment de fabriquer mes ounailles, là, de déguiser des agneaux en vampire. Bon. Donc, maintenant, c'est vrai que, ne serait-ce que, parce que quand même, j'en viens un peu là, ça fait un moment que je sollicite des équipes bénévoles, quoi. Mmh. Ne serait-ce que pour ça, non, j'aspire un peu à des moyens, quoi, voilà. Ne serait-ce que, de toute façon, le minimum, déjà, payer une équipe au tarif et autres, ça commence à m'intéresser, effectivement, effectivement, quoi.
Dans tous les films, il y a des remerciements à votre maman.
Ah, non, le dernier, là, je ne l'ai pas. Elle n'y est pas. Le tout petit dernier. Ah, bah oui, ouais, sinon, ouais, quand même, je remercie ma maman, quoi. Bah, même, ouais, bah, elle m'a toujours filé un coup de pouce, ne serait-ce qu'en filant des produits de la ferme pour nourrir les clients.
Elle fait à manger, quoi.
Non, elle fait pas la cuisine, même. Bon, elle est agricultrice, donc elle a sa basse cour. Fait du foie gras, tout ça, que des bonnes choses. Donc, voilà. Et c'est bien, il faut penser à bien nourrir les équipes, quoi, quand on ne les paye pas, en plus. C'est important.
C'est-à-dire qu'un peu de foie gras ne peut pas nuire à l'ambiance générale.
Exactement, quoi. Même un bon coup de gnôle à la fin du repas, de la bonne prune, quoi. Ça fait toujours plaisir à tout le monde.
C'est une question simplement, en plus, pour faire connaissance, comme on dit. Quels sont les films que vous avez vus pour la première fois? Qu'est-ce que vous avez aimé dans le cinéma? Est-ce que c'est le fait de voir des films qui vous a donné envie de faire du cinéma? Ou est-ce que c'est autre chose, Alain Giraudy?
Non, c'est le fait d'avoir de voir
et où, films, mais... où avez-vous vu votre premier film? Est-ce que c'était votre maman qui vous y a amené ou pas? Est-ce que, voilà.
Non, c'est pas ma maman, non. C'était pas trop le style de la maison, mais non, moi.
Quelle raison?
Oh, parce que non, je suis né dans une ferme, mes parents étaient agriculteurs, c'était pas, enfin, franchement, c'était pas un souci d'aller au cinéma. Non, moi, c'est plus par la télé que j'ai commencé, quoi, hein, franchement. Enfin, mon premier rapport au cinéma, ça a été par la télé, ça a été très, comment dirais-je, mais ça vient même de séries comme Les Incorruptibles, Les Envahisseurs, qu'est-ce que j'ai d'autre, enfin, je crois qu'il y a...
Amicalement vôtre.
Ouais, enfin, ça encore, non, j'ai moins flash. Enfin,
les Mystères de l'Ouest.
Ça me faisait marrer, quoi, mais même les Mystères de l'Ouest, je trouvais ça plutôt mal foutu comme truc. Mais bon, j'aimais surtout, moi, c'était Les Envahisseurs et Les Incorruptibles, et ça m'est resté. Et puis voilà, j'y suis vachement venu aussi, moi, c'est Tintin, c'est ces choses-là, quand même, qui sont, et que je continue à considérer comme de grandes choses, quoi. Et puis après, je sais pas, fondamentalement, ce qui m'a fait un peu passer à autre chose.
Mais attendez, puis c'était où? C'était ensuite à Montpellier?
Au collège, là, j'étais au collège à Rignac, dans l'Aveyron. Ouais, je reviens très, très loin en arrière. Après, à l'adolescence, je sais pas, moi, j'ai vu aussi toutes les conneries qu'on peut voir le mercredi après-midi au club à Rodez, quoi. Enfin, donc, okay. J'aimais bien les. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Le cinéma. S'il y avait un peu de cinéma à caractère social, des trucs style. Il y avait Yves Boisset, Costa Gavras, parce que j'étais quand même un peu politique, alors j'aimais bien aller voir Z. Ça, pour moi, c'était le top du top. Mais franchement, le premier truc à cette époque-là sur lequel j'ai vraiment, où je me suis dit, ah ouais, autre chose. Ah, il existe un monde ailleurs et tout ça. Il existe une vie après Costa Gavras. c'est le diable blond et le dieu noir de Glauber Rocha que j'ai vu à la télé, que j'ai vu, je me rappelle, un été sur France 3, qui devait s'appeler encore à l'époque RFR 3. Et ça, voilà, ouais, moi je pense que fondamentalement, quand même, ce film-là m'a quand même fait penser qu'il y avait autre chose dans la vie. Voilà, ça englobait Rocha, je crois, je reste un petit bouseux, quoi.
Et le premier Luc Moulet?
Alors, le premier Luc Moulet, c'est très tard, hein. Très tard. Alors, ouais, ah oui, là, ça je suis... C'est l'histoire... Puis je ne me rappelle jamais du titre. C'est Genèse d'un repas, je crois. Où il mange et il... c'est un souvenir assez fourri. Ce serait bien que je le revoie, d'ailleurs. Et il refait tout l'itinéraire de l'aliment dans son assiette. Hein. Alors, je me rappelle de l'ananas...
Pendant
de
que la... vous parlez, Luc Moulet fait les gestes sur la table.
Oui, ben on va...
C'est... Alors
Oui, c'était sur cette table autour de laquelle nous sommes et qui a été transportée.
D'accord. Non, et où il reconstitue toute la chaîne alimentaire à partir de ce qu'il a dans l'assiette. Enfin, j'ai le souvenir d'un truc effectivement assez barré. Toujours, voilà, toujours dans cet esprit très didactique, quoi. On vous explique très sérieusement.
Oh, professeur Moulet.
Des choses où je me disais. Et puis, ouais, qui en plus, où on se dit c'est complètement farfelu d'aller expliquer ça. Et en même temps, non, c'est. Ça vaut le coup, c'est le genre de choses qui valent le coup d'être reprécisées de temps en temps, quoi. Voilà, ça participe du même, de toute la veine très d'une veine de documentariste de Luc.
Et puis il a cette chose, hein, après tout, vous avez vu, regardez-le, il change pas, on le reconnaît très bien tel qu'on le voit dans ses films. Et vous qui aimez bien Hergé, vous trouvez pas que Luc Moulet pourrait être dessiné par Hergé, hein? Il a le physique de quelqu'un qui pourrait apparaître dans une vignette d'Hergé, hein? Ouais. Professeur Moulet, ouais, il a quelque chose qui est dessiné ligne claire.
Oui, mais de toute façon, oui, il y a un côté ligne claire. Ouais.
On va téléphoner à Hergé.
Voilà. Bien, merci infiniment pour cela dit. Alors là, vous voyez la question traditionnelle des interviews. C'est quels sont vos projets, Luc Moulet? Quels sont vos projets, Alain Guiraudy? J'ai entendu incidemment tout à l'heure que vous vouliez adapter Thomas Hardy.
Oui.
Et c'est le projet qui vient, par exemple, ou c'est quoi?
Non, parce que ça coûte trop cher. C'est un budget de 10 ou 12 millions. Et j'ai pas eu l'avance sur recette parce qu'on a dit que c'était pas pour moi parce que c'était trop cher. Et que j'étais moulé bout de ficelle et que j'avais pas faire de film en costume. Donc ce que je vais faire, c'est Les Naufragés de la D-17, qui est un film de pure fantaisie qui se passe en milieu rural et dans une sorte de désert français et autour d'une bergerie notamment. Et où il y a le berger qui séduit toutes les femmes sans le faire exprès. Il faut dire que je descends d'une famille de bergers. Jusqu'à mon arrière-grand-père, ils ont tous vécu du mouton. Donc un petit troupeau et la garde de bergers jusqu'à mon grand-père.
Bon, tour de manivelle quand?
Vers le 16 mai, j'espère.
Et vous, Alain Guiraudy, alors vous, il y a un scénario d'équipe. Bon, après, ce virage qui bouge, ouais, donc on va résumer d'une phrase. C'est un jeune ouvrier démonte une machine dans une usine qui est assez mal en point, enfin qui est sur le point de fermer, ferme.
À la fin de la semaine.
À la fin de la semaine, et il sème trouble et émoi. Il danse parmi les autres ouvriers de cette usine. Enfin, mais
disons que c'est une affaire de drague entre hommes sur fond de crise sociale, quoi. Et c'est une affaire de drague entre hommes.
C'est pas théorème dans un milieu grand bourgeois, c'est théorème à l'usine.
Ah ouais, bon, ne me faites pas dire. J'aurais du mal à. Non, je ne serais pas là à le rapprocher de théorème, mais disons que c'est une affaire de drague qui merde entre trois hommes sur ce fond-là, quoi.
Et après,
il y a un long décrit, quoi. Décrit en réécriture, quoi. Bon.
Que vous déposerez à l'avance sur recette pour essayer de vous mettre dans les pas de Luc Moulet en vous souhaitant meilleure chance.
Qu'on va déposer à l'avance sur recette, qu'on va essayer de produire, quoi. Voilà, ça se déroule toujours. Et pareil, bon, là, ça a plus des allures de road movie sur un périmètre assez étriqué, quoi. On va dire un road movie dans le département de l'Aveyron et du Tarn, voilà. Avec peut-être un petit passage dans les Landes, voilà. Mais c'est assez un panorama de la France qui perd, on va dire, d'une France un peu out et qui tombe un peu en déliquescence, quoi.
Merci, vous serez d'accord, Luc Moulet, pour qu'on termine au montage cette interview par quoi? Alors, un extrait d'un film d'Alain Guiraudy, hein?
Et... Bonne idée, bonne idée.
Lequel, du Soleil pour les gueux, le dernier?
Oui.
Bah oui. Hein? Ouais, respectons l'actualité.
Je ne vais tout de même pas renoncer au Ménon Ascolar, à l'Ebanja, à Golonda Ramos, parce que Chaouch Mali ne veut ma peau. Si vivre, ça veut dire se traîner dans le monde sans jamais y trouver sa place, errer parmi les hommes à la recherche d'un endroit impossible, eh bien vivre ne m'intéresse pas. Ici, je suis chez moi. Je me sens même en sécurité. D'ailleurs, ne comptez pas sur moi pour passer ma vie à fuir. Non, je pense bien encore leur jouer quelques mauvais tours.
Vous continuerez à affronter les guerriers ?
Bon, affronter, c'est un grand mot. Je veux bien continuer à les assommer quand ils ont le dos tourné, leur tendre des embuscades lorsqu'ils ont bu un verre de trop, mais surtout pas de combat régulier.
Ah bon ? C'est marrant, j'aurais plutôt pensé
que... Oui, je sais, vous auriez pensé que je livrais de grandes batailles à 10 contre 1 et que j'en sortais toujours vainqueur. C'est drôle, tous les gens m'imaginent ainsi, surtout les filles. Alors que moi, la seule chose qui m'importe lorsque j'agresse un guerrier, c'est d'en finir le plus vite possible, et surtout ça me faire mal. Oui, soyez bien sûr que je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Et même, je vais vous dire une chose. Le jour où je me sentirai assez fort, j'attaquerai directement Chaouch Mali. Qu'il essaie de me faire pendre sur la place de Motiwa. Oui, qu'il essaie un peu.
Oh ! C'est ça, les Unai ! C'est marrant, je les imaginais plus gros et plus, comment dirais-je, pas plus bizarre. Mais en fait, c'est drôlement mignon comme bête.
Non ! Ne les caresse pas.
Ouais, vous êtes folle. Et si vous mordent, la Borondale, vous y pensez à la Borondale ?